À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Riyad Satouf. Et je fais des livres de bande dessinée, enfin je suis auteur de bande dessinée.
Deuxième épisode, la double culture. Bonsoir Riyad Satouf.
Bonsoir Caroline Brouet.
Nous avons parlé hier de votre double naissance, plutôt d'une double naissance, la vôtre en France en 1978, et celle de votre œuvre autobiographique qui compte désormais 6 tomes, L'Arabe du futur. J'aimerais ce soir qu'on parle de la double culture que vous avez reçue, peut-être du coup en nous focalisant sur les tomes 4, 5, 6 de L'Arabe du futur, sachant que la difficulté que nous avons, c'est que votre biographie et votre œuvre fictionnelle s'emboîtent, s'en mêlent, et que nous aimerions ne pas trop divulgâcher des éléments qui seraient dans votre œuvre. Donc nous allons naviguer peut-être avec des choses que vous n'avez pas mises dans votre dans vos albums, des choses que vous n'auriez pas encore dites. Nous verrons bien. Toujours est-il que dans le tome 4, vous racontez les années 1987-1992, c'est-à-dire entre votre 9e et votre 14e année. Un enfant qui est ballotté entre la Syrie et la France, qui vit auprès d'une grand-mère bretonne pour qui péder la pire insulte. Un grand-père naturiste obsédé par les femmes et un père de plus en plus distant qui vit en Arabie Saoudite, qui veut faire de vous un bon arabe et un musulman et puis qui se renferme dans la religion et peut-être dans l'opposition au monde occidental. Est-ce que vous diriez que cette enfance a été une enfance tiraillée entre deux identités, entre deux cultures ou deux mondes irréconciliables que représentaient ses grands-parents d'un côté et vos parents de l'autre ?
J'ai jamais eu vraiment la sensation de concrètement d'être de deux cultures. Ça a été plutôt les autres qui m'ont projeté ça en me disant toi t'es de deux cultures, t'es à moitié syrien, t'es à moitié français. Enfin voilà, c'était beaucoup. Je me suis rendu compte en fait assez jeune que c'est des mots simplificateurs en fait qu'on utilise
et réducteurs
qu'on utilise peut-être pour voir. Voilà, pour se dire, il y a deux cultures, c'est pas la même culture, ou alors, il y a, les différences, moi, que je voyais principalement entre le monde, donc moi, j'ai surtout senti une différence de moyens économiques, je sais pas, de, je le sentais dans la, éducative aussi. C'est vrai que dans mon village en Syrie, il y avait encore beaucoup d'adultes qui savaient pas lire et écrire, par exemple. Dans ma génération, maintenant, ça s'est terminé. Tout le monde est quasiment, même dans le village syrien, tout le monde sait lire et écrire. Le village ne ressemble plus du tout à ce qu'il était quand je l'ai connu, mais j'étais marqué par ça, ce sentiment d'avoir eu accès à la fin de deux mondes de chaque côté, mais qui n'étaient pas vraiment dans la même chronologie, quoi. Je sais pas. Par exemple, j'ai appris récemment que dans mon village en Syrie, j'avais un cousin qui avait fait une école privée, maternelle privée. Et je pense que un jour, je le raconterai peut-être dans un album de bande dessinée, mais ça semble complètement hallucinant qu'il y ait une école privée maternelle dans le village où j'habitais. C'est un petit peu comme si vous me disiez, la dernière fois que j'ai vu Caroline Brouet, elle partait sur Mars, par exemple. Je dis, mais quoi? Mais comment? Oui, il y a des voyages spatiaux, maintenant on va sur... Mais c'est pas... Ça me semble complètement fou, en fait, qu'il y a eu un progrès. Mine de rien, en Syrie, il y a eu un progrès économique, social, qui s'est passé... Alors, si c'est arrêté avec la guerre, bien sûr, ça s'est effondré, parce que toute la société était complètement corrompue, et il y a eu... Mais ça me semble complètement fou de savoir que ça a quand même progressé, parce que ce que j'ai connu, moi, était quelque chose... Comment expliquer ça? Donc voilà, moi, mon choc culturel, il est plus de l'ordre chronologique dans l'histoire humaine, je sais pas comment... C'est pas la culture musulmane et chrétienne ou catholique, parce que ça n'entrait pas tellement en ligne de compte. C'était plus un ensemble de traditions que chacun des deux côtés suivait. Voilà.
C'était pas ma question, hein, d'ailleurs, si c'était chrétien ou musulman. Ça allait peut-être y venir, la religion, parce que vous avez
une
grand-mère très catholique.
Justement, c'était pour ça, parce que, en fait, ma grand-mère n'était pas du tout catholique, justement. Elle était vraiment plutôt superstitieuse. C'est-à-dire, elle n'était jamais allée dans une église, elle n'allait jamais à l'église. Et elle avait, mais elle avait fait baptiser ses enfants en douce dans le dos de son mari, au cas où il y aurait quelque chose après. Voilà. Ça, c'était mon côté breton. Ils n'étaient pas du tout, non, elle avait pas, elle n'était pas croyante du tout.
Est-ce que vous diriez que c'était une famille ouverte? Ouverte justement aux autres cultures, ouverte aux autres représentations du monde, ouverte aux autres individus qu'il y a sur Terre. Dans vos albums, on voit quand même une constante qui est entre les deux pays, c'est l'ignorance de l'autre, enfin le terreau de la violence, où que vous soyez, que ce soit en France encore une fois ou en Syrie. C'est l'ignorance de l'autre, que quand vous êtes dans une école en Syrie et qu'on a une représentation de la France qui n'a rien à voir, ou quand vous êtes en France et que vous avez une représentation de la Syrie. Bon. Donc est-ce que de ce point de vue-là, votre famille était une famille?
Bah non, je pense que c'était comme toute n'importe quelle famille. En fait, les gens se font des idées de comment les autres peuples vivent ou de comment les gens vivent. Moi, quand j'étais en Syrie, ça m'arrivait tout le temps que mes cousins ou mes tantes, elles m'expliquaient comment on vivait en France, comment étaient les femmes françaises, beaucoup trop frivoles, que c'était, elles allaient aller en enfer, etc. Elles m'expliquaient par A plus B comment vivaient les Français, mais elles me posaient pas la question de que je leur raconte, en fait. Elles me disaient pas, mais c'est comment en France? Elles me disaient, alors en France, il paraît que les Françaises sont comme ci, comme ça, mais elles sont comme ci, pourquoi font-elles ça? Et nanana. Et quand j'étais en France, et ça m'arrive encore aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent pas, même, ils m'expliquent comment on vit au Moyen-Orient et comment c'est, qu'en fait, on a une vision faussée ici des choses, ou etc., machin. Donc je pense que c'est un réflexe humain pour se rassurer, de vouloir penser qu'on sait comment on vit ailleurs, ou comment ma famille bretonne, elle était pas, c'était pas du tout
une
des gens xénophobes. Non, pas du tout. Ils étaient beaucoup moins xénophobes que ma famille syrienne, qui eux avaient justement quelque chose de très antique dans le sens de, voilà, moi je pense vraiment que la xénophobie est une constante de l'être humain. On refuse parfois de le voir, mais je pense que ça remonte à la préhistoire. Je sais pas, les groupes d'êtres humains se méfient toujours des autres groupes d'êtres humains. C'est valable dans le monde entier. On le voit bien partout sur Terre, à tous les niveaux de, je sais pas, que ce soit en Norvège où les gens se méfient des gens du Nord, ou je sais pas quoi, ou que ce soit en Afrique avec les ethnies, ou que ce soit dans les pays d'Asie. Enfin, la méfiance de l'autre, c'est une constante humaine. Il n'y a pas Moi, les gens les plus tolérants que j'ai rencontrés de ma vie, les plus intéressés par les autres cultures, ça a été en France. Quand j'étais au lycée, etc., des gens me posaient des questions, voulaient savoir des choses. Mes lecteurs qui lisent l'arabe du futur sont intéressés par les autres cultures. Mais voilà, moi, ma famille bretonne, bon, elle était pas, prenait comme ça arrivait, quoi. Mais ils étaient pas tellement xénophobes, justement. Non, moins que ce qu'on pourrait penser.
En tous les cas, il y a une constante entre les deux pays, entre la Syrie et la France, qu'on voit tout au long de vos albums de l'Arabe du futur, en tout cas, c'est l'antisémitisme. Juif est d'ailleurs le premier mot, je crois, que vous avez appris en arabe, et c'était une insulte.
Oui, c'est vrai, oui. Mais là, ça fait partie, par exemple, des choses dont on parlait la dernière fois, où je pensais, moi, personnellement, que c'était quelque chose de connu, ou au moins de su, que, voilà, au Moyen-Orient, il y avait dans mon école en Syrie, j'ai gardé les livres scolaires, je les ai toujours. Ça a été les mêmes livres scolaires en Jordanie, ça a été les mêmes livres scolaires au Liban, etc. On apprenait à détester les Israéliens et les Juifs. On apprenait à lire le Juif. Alors, le mot arabe, c'est Yahoud, non, Yahoudi, il signifiait l'ennemi héréditaire, quoi. C'était à la fois l'Israélien, le Juif, une sorte de traître qui pouvait arriver. Alors les autres enfants de mon village, ils me soupçonnaient d'être un Juif parce que je venais de France. Donc il y avait un. Mais moi, je savais pas du tout ce que c'était. J'en avais jamais. J'avais jamais. Je, je, Alors, pour essayer de me faire accepter, je me faisais plus antisémite qu'eux. C'est-à-dire, je passais mon temps à vouloir jouer à la guerre contre Israël, etc. Et au bout d'un moment, mes cousins qui me soupçonnaient d'être un Israélien caché finissaient par en avoir marre et me disaient « Attends, c'est bon, il n'y a pas qu'Israël dans la vie, arrête de nous pomper les règles. » Finalement, c'est comme ça que je me suis fait accepter. Mais voilà, je voulais raconter ça aussi. C'est vrai que ça m'a surpris, en fait, quand les gens semblaient découvrir ça dans l'Arabe du futur. Et aujourd'hui, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est su et acquis.
L'antisémitisme, c'est quelque chose que vous avez connu enfant, c'est quelque chose qui a continué quand vous étiez adolescent. Vous l'avez connu également en France, vous l'avez vu et vécu. Mais il y a autre chose que vous avez vécu, Riyad Satouf, dans ces années d'adolescence. C'est les difficultés qu'ont rencontrées vos parents, votre mère qui ne supportait plus de vivre en Syrie, les allers-retours en France avec les trois enfants, les épreuves que passe votre mère, jusqu'à un drame qui clôt l'épisode 4. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on le révèle, la fin de l'épisode 4. On peut considérer que les lecteurs et les lectrices ont lu, mais il y a tous ceux qui n'ont pas encore lu. Alors, c'est un drame important qui, disons, touche votre famille de près. Vous avez deux frères. C'est un drame important qui touche votre famille par votre père, hein, disons, et qui révèle une grande présence de vos grands-parents maternels à ce moment-là, puisque vous êtes à Rennes, vous êtes en France avec votre mère à ce moment-là et vos grands-parents. Ces grands-parents, vous leur êtes très reconnaissant aujourd'hui de vous avoir aidé quand même et soutenu dans cette période qui était quand même assez douloureuse, hein, on va dire ça comme ça.
Bah, mes grands-parents bretons, c'est vrai que je leur dois quand même énormément de choses, parce qu'ils ont aidé ma mère financièrement, et surtout au-delà de ça, ils m'ont toujours soutenu dans mon désir de devenir auteur. Alors il y avait une sorte de sidération dans la famille qui était que j'étais en effet le seul membre de cette famille depuis, je sais pas, la préhistoire peut-être, à avoir des prétentions un peu artistiques. Voilà, je dessinais, je me faisais remarquer avec mes dessins, j'aimais bien montrer mes dessins aux adultes, j'étais un petit peu prétentieux, etc. Je voulais faire des BD. Mais alors, comme personne dans la famille n'avait jamais fait ça, eh ben, j'étais un peu un centre d'intérêt. Ma grand-mère passait son temps à dire, par exemple, que j'avais de l'or dans les mains, que j'étais supérieur à... Dès qu'il y avait un reportage à la télé sur Picasso ou Léonard de Vinci, elle me comparait à moi, mais sincèrement, non pas pour me faire plaisir, mais elle trouvait réellement, quand on voyait des tableaux de Picasso à l'écran, elle disait « Mais regarde, qu'est-ce que c'est moche, ça. Mais pourquoi c'est pas tes dessins à toi qui sont dans le musée? C'est nul, avec les yeux de traviole, etc. » Mais elle le disait vraiment sincèrement. Et donc moi, je pensais que c'était vrai. C'était un milieu culturel qui était très, très limité, mais très aimant. Voilà. Et je crois que je leur dois énormément. Et quand j'ai pensé à l'Arabe du futur, j'ai tout de suite imaginé cette bande dessinée-là comme un livre qui aurait pu être, j'ai voulu faire le livre que ma grand-mère aurait aimé lire en bande dessinée, parce qu'elle aimait pas ça. Elle trouvait que c'était trop grossier, que c'était pour les ados, un peu attardé, etc. Que c'était où on écrivait des vrais livres, là, elle les lisait pas parce que c'était trop compliqué, c'était pas pour nous. Ou alors on était peintre, et alors là on faisait des tableaux, et le vrai peintre et le vrai artiste, c'était celui qui faisait des tableaux où on aurait dit que c'était des photos. Voilà, c'était ça le summum de la technique, de la beauté de l'art, quoi. Mais ça, voilà. Mais en même temps, en pensant comme ça, et en me mettant en avant sur le fait que j'étais vraiment un génie, j'ai fini par y croire, je crois. Et donc, voilà, j'étais très... Moi, j'avais un grand-père breton qui avait eu un petit magasin de photos à Mogador. Après la guerre, ça l'avait traumatisé, il était parti au Maroc. Il a ouvert un magasin de photos dans un petit village, enfin dans une petite ville. Et il avait rencontré Orson Welles, qui avait tourné Othello pile à ce moment-là, à Mogador en fait. Et il avait peu de moyens. Et Orson Welles n'avait pas de studio photo. Et en fait, il avait développé toutes les photos de tournage de son film dans le laboratoire de mon grand-père, qui était un tout petit magasin. Il avait besoin de photos de ses décors pour faire ses raccords, enfin voilà, pour que la script puisse, pour faire des champs contre champs, par exemple. Donc mon grand-père développait toutes ces photos. Il avait passé plein de temps avec Orson Welles, Donc moi, très tôt, mon grand-père m'expliquait, me racontait les aventures d'Orson Welles. Etc. Il n'avait jamais vu un de ses films, il n'avait même pas vu Othello, mon grand-père, mais il me disait, oh, mais c'était quand même quelqu'un d'incroyable, etc. Il avait énormément de plein d'idées tout le temps, il parlait tout le temps, il était, quand il expliquait des choses à ses techniciens, mais il comprenait rien, donc il leur prenait ses trucs, il faisait à leur place, parce qu'il disait que ça allait plus vite et tout. Il faisait plein de dessins, des trucs comme ça, mais il me fait penser à toi. Et t'es comme lui, t'es comme Orson Welles. Toi, vous êtes exactement les mêmes, le même genre de personnalité et tout. Et j'ai grandi avec cette idée-là, en fait, et quand j'ai découvert, après que j'étais étudiant, qu'Orson Welles était un des plus grands réalisateurs de tous les temps, le mal était fait, en fait, quelque part. J'avais grandi en pensant que j'étais Orson Welles. Donc, souvent, je dis aux grands-parents, n'hésitez pas à valoriser vos petits-enfants, ça peut marcher, quoi.
Ouais, vraiment... mais surtout que ça venait quand même compenser cette haute idée, hein, de votre valeur comme dessinateur. Venait compenser ce dénigrement physique permanent et puis la difficulté d'être un ado, parce que à ce moment-là vous êtes un adolescent, puis vous vous trouvez de plus en plus moche, vous avez les cheveux marrons alors qu'ils étaient tout blonds, tout beaux quand vous étiez petit, vous avez des boutons, vous avez du mal avec les filles, une grande timidité, du mal à s'intégrer au collège à Rennes, l'objet de moquerie, très solitaire. Donc c'est vrai qu'on a un peu envie de dire vive le dessin qui vient compenser une sorte de mal-être, hein, quand même. C'était pas,
oui,
bien
sûr,
une bonne période. Hein.
Après, c'est vrai que c'était pas non plus. Enfin bon, c'était de la vie, c'était comme ça. Mais dans les faits, c'est vrai que j'avais une drôle de tête, par exemple. J'ai d'ailleurs toujours un drôle de regard qui est un peu en demi-lune comme ça, Là, j'ai fait plusieurs rencontres ces derniers jours dans des librairies. Là, il y avait plein de monde pour les dédicaces et tout. Puis les gens, ils avançaient vers moi à ma table. Et à chaque fois qu'ils me regardaient, ça m'est arrivé plein de fois, ils s'avançaient vers moi, puis ils me disaient, oh, je suis tellement contente de vous rencontrer et tout. Bon, vous avez l'air fatigué, non, vous en avez marre. Alors que moi, dans ma tête, j'étais content, en fait. Et donc, il y a ce décalage entre la représentation qu'on peut envoyer au monde extérieur et ce qu'on est en son fort attache. Je me dis, ah oui, zut, c'est parce que j'ai les yeux en demi-lune. Et donc, je me force à ouvrir les yeux grands comme ça, parce que si je laisse tomber mes yeux, j'ai l'air fourbe. Et donc, les gens se disent, wow, est-ce qu'il est fourbe ou est-ce qu'il est juste crevé? Je sais pas trop. Donc, c'est pour ça que je comprends en même temps les difficultés qu'on a quand on est ado et dont les gens qui pouvaient se moquer de moi, par exemple, il y avait des bonnes raisons. Je sais pas comment dire. J'avais l'air en effet bizarre. Et j'étais en effet pas hyper sympa. Je parlais à personne. Je savais pas sourire. J'étais incapable de regarder les gens dans les yeux. Enfin, j'étais bizarre. C'est vrai que j'étais un peu bizarre. J'étais pas complètement une victime. Je choisissais un petit peu d'être un exclu aussi.
Et puis, vous étiez fasciné par le spiritisme, l'occultisme, les livres sur l'enfer, sur le diable.
Bien sûr,
bon.
Oui.
Vous adoriez le thrash metal, c'est ça qui vous calmait. Donc, c'est vrai qu'on peut considérer.
Oui, bien sûr, j'ai joué dans des groupes de hard rock, etc. Je jouais de la guitare et tout. J'adorais ça. J'étais complètement habité par une sorte de colère que j'essayais de. Alors, j'avais pas le droit d'être un rebelle dans ma famille parce qu'il y avait ce drame familial terrible qui, en effet, envahissait tout. Et donc, je me disais, j'allais pas en plus être pesant dans ma famille en étant un rebelle, par exemple, j'ai jamais fait de crise d'adolescence, par exemple, absolument jamais. J'attendais que ça passe. J'ai retourné un petit peu peut-être la violence plutôt que de la retourner sur les autres. Je l'ai un peu retourné sur moi-même. Je dessinais, je me rappelle, je faisais des dessins avec des milliards de petits traits toute la journée. Je faisais des allers-retours de stylo, comme des petits mouvements masturbatoires bizarres avec mes crayons. Je dessinais du matin au soir. Et je faisais passer ça dans le dessin, voilà. Et la musique un peu aussi. C'est vrai que j'ai fait pas mal de guitare. Mais j'étais beaucoup plus doué, j'avais plus d'intérêt des autres vis-à-vis de mes dessins que vis-à-vis de mes dons en death metal.
C'est à cette époque, Riyad Satouf, une époque donc assez douloureuse, que vous avez commencé à faire le clown aussi.
Faire le clown, vous voulez dire avec les dessins ou en faisant des blagues?
Les deux. Alors les dessins, vous en avez parlé, mais en faisant des blagues, peut-être pour détendre un peu l'atmosphère.
Vis-à-vis de ma famille, c'est vrai, oui. C'est vrai que je me suis mis à, en fait, comme il y avait une ambiance extrêmement pesante, et que souvent, ça finissait par m'arriver dessus parce que Par exemple, mes notes à l'école étaient un peu nulles, et donc on se demandait ce que j'allais faire. Immédiatement, j'essayais de détendre l'atmosphère en faisant des imitations, en me moquant des gens de ma famille, par exemple, en imitant des gens de la famille de mon père, etc. Enfin, je faisais des mini-spectacles comme ça qui faisaient rire tout le monde, et ça détendait l'atmosphère. Donc en fait, assez tôt, je pense que j'ai mélangé le drame avec l'humour. Peut-être c'est ça qui a influencé mes BD tels que je les fais aujourd'hui, c'est-à-dire... De faire à la fois des trucs qui peuvent passer pour être vus comme extrêmement violents et déprimants et tristes, et tout en étant un peu marrant quand même. J'aime bien rigoler avec le malheur, voilà. Ouais, c'est vrai.
C'est une époque où vous n'avez plus de contact avec votre père, sauf dans votre tête. Il y en a beaucoup. Il est très présent dans votre tête. Un peu comme une mauvaise conscience ou un peu comme un juge intérieur aussi. Vous me diriez comment aujourd'hui?
Bah, c'est vrai que qui est la voix qui parle dans notre tête, par exemple, qui nous regarde dans la glace, etc. On pense que c'est notre voix intérieure, par exemple, mais en même temps, c'est aussi la voix de notre éducation, la voix de tous les gens qu'on a rencontrés qui nous ont dit des choses, etc. Et c'est vrai que l'Arabe du futur, c'était le moyen aussi de raconter par mon propre exemple comment on est le produit d'une éducation et comment finalement voir le monde, la façon dont on le voit. Ça nous a été transmis en fait. Et c'est vrai que moi, très quand j'étais plus jeune, je me suis rendu compte que malgré moi, je voyais le monde un peu comme le voyait mon père. Je me méfiais des gens, j'avais mon père pensait que la France était un pays très raciste, que c'était très... Et finalement, sa voix me racontait ça dans ma tête quand j'avais une difficulté, par exemple. Je rejetais ça sur la société, je rejetais ça sur les autres, c'était pratique, en fait. Il y avait quelque chose de très pratique pour excuser son propre échec, qui va être... C'est ce qu'avait fait mon père. En fait, il avait un doctorat à la Sorbonne, mais il n'avait jamais voulu... chercher de poste en France, alors qu'il aurait très bien pu, mais il voulait pas parce qu'il partait du principe qu'on ne le prendrait pas parce qu'il était arabe et qu'il avait un accent français, un accent arabe. Voilà, j'ai même fait un lapsus. Il avait un accent arabe et c'était faux, en fait. C'est juste qu'il avait jamais essayé, il n'avait jamais tenté, il s'était jamais confronté à la difficulté, en fait. Et d'ailleurs, la difficulté n'aurait peut-être pas été là où il pensait qu'elle était. C'était ça, justement, le... Et donc c'est vrai que je raconte dans l'Arabe du futur comment on se retrouve à trimballer des fantômes comme ça et comment il faut s'en débarrasser, ou au moins essayer de s'en débarrasser si on veut briser un petit peu la transmission de la violence, quoi, la transmission de l'éducation mauvaise, quoi, des mauvaises façons de voir la vie, le monde, enfin mauvaise dans le sens où elle empêche l'individu, quoi, voilà, c'est ça.
Une phrase de Salman Rushdie que vous citez beaucoup, que vous aimez bien, qui est « L'homme n'a pas de racines, il a des pieds », qui peut être aussi une réponse à une question qu'une fille, je crois, vous pose dans un des tomes de l'Arabe du futur, qui est « Comment vous vous êtes forgé une identité ?» Alors même que justement, votre père se mettait à rejeter de plus en plus la culture française et considérait que le pays était raciste, et que votre mère devenait... plus le temps passait, plus elle devenait anti-arabe. Donc c'est un peu compliqué, moi, l'enfant de cette...
Non, mais bien sûr.
C'est le fruit de ce couple.
Ben non, mais c'est justement ça. C'est vrai que j'étais coincé entre des extrêmes. C'était vraiment, voilà, les familles qui se haïssent, qui se détruisent, qui se disloquent, quoi. Et je crois qu'en fait, assez tôt, moi, j'ai eu la chance je me suis dit, mais je vais devenir un auteur de bande dessinée. Voilà. Je me rappelle, j'avais lu un livre qui m'avait vraiment marqué, qui était une série d'entretiens qu'avait fait Numa Sadoul avec Moebius. Alors, Numa Sadoul, il avait fait aussi un livre très célèbre avec Hergé. Et la lecture de ce livre, voilà, de ces livres-là m'a vraiment décidé. Enfin, je m'étais dit que voilà, je voulais rejoindre le peuple de ces types qui font des livres.
C'est aussi à cette époque, Riyad Satouf, que vous commencez à lire. Alors, il y a l'appel de Cthulhu, de Lovecraft.
Ah, vous dites ça, vous?
Ah, je dis Cthulhu, moi, j'ai toujours dit Cthulhu.
Ah, c'est pas mal. Ah, moi, j'ai...
Cthulhu?
Ouais, c'est vrai, vous avez raison.
Non, je sais pas du tout.
Non, mais en fait, justement, moi, je dis Cthulhu, mais...
pas qu'on demande Lovecraft, mais heureusement, c'est pas possible.
Mais... Non, mais c'est vrai, et c'est drôle parce qu'il y a quelques temps, j'ai pas fait attention. Mes enfants étaient avec leur babysitter, ils ont regardé un truc sur Lovecraft, alors qu'ils n'avaient pas du tout l'âge de le regarder. Mais alors, j'ai trouvé ça hyper bien. Et c'était une sorte de petit film, petit dessin animé, et où on voyait la cité de Cthulhu. Donc, Cthulhu, il habite à une cité qui s'appelle Rliet. Alors, moi, je disais Rliet. Et mon fils qui a 6 ans, il venait, hey, papa, on a vu un truc sur Cthulhu. Et alors lui, il disait aussi Cthulhu, mais il disait, mais il habite à Rlai. Parce que sans doute, dans le reportage, il disait Rlai. Et voilà, je sais pas comment on prononce.
Ah, mais non, mais moi non plus, vous voyez, mais j'ai toujours
dit. Ah, c'est bien Cthulhu, c'est presque de l'arabe.
Mais oui, je sais pas.
Cthulhu.
En tout cas, on va dire,
Cthulhu.
T'as eu, voilà, vous avez lu.
J'adore, je vais dire Cthulhu maintenant, c'est très très bien.
Attention, vous avez le Moebius, c'est vous qui allez dire comment on prononce le Moebius en question. Arzak?
Arzak, oui.
Ça, c'est simple. Et puis Bilal, la foire aux immortels. Eh bien, j'en oublie encore un, la foire aux immortels de Bilal. Et puis, il y a eu Druillet, la nuit. C'est vraiment à cette époque que vous découvrez ces auteurs. Et ça, c'est vraiment très important pour la suite.
Ben oui, parce que c'est vrai que je n'avais lu que Tintin, en fait, quand j'étais en Syrie. Parce que ma grand-mère bretonne m'envoyait les albums. Et j'ai découvert à l'adolescence, voilà, toute cette bande dessinée, fantastique en fait, surréaliste, qui explosait les cases. Moi, je me rappelle les bandes dessinées de Druillet avec les qui explosaient en double page comme ça. J'avais jamais vu des trucs comme ça. Mais en même temps, ça ressemblait un peu à mes fantasmes d'ado, de petits traits que je dessinais toute la journée. Mais il allait beaucoup plus loin. Il était complètement. Je me rappelle, il y a un dessin de Druillet qui m'avait ultra marqué. Et je crois que je me demande si George Lucas n'en parle pas en même temps aussi dans une interview, je sais plus. Mais j'étais tombé dessus. Il dessinait des ponts entre des étoiles. Et il essayait de le dessiner de manière un peu, comment dire, monumentale. C'est-à-dire, il y avait des étoiles, donc il y a comme des soleils, comme ça, qui brillaient. Puis il y avait des ponts qui passaient d'une étoile à une autre et d'une planète à une autre, etc. Et je me disais, mais c'est hallucinant d'oser dessiner un truc pareil. C'est-à-dire, j'aurais pas osé faire ça. Il y avait une forme de mégalomanie libératrice, je ne sais pas quel est le bon mot. Et j'avais ressenti ça en lisant les livres de Lovecraft où il inventait des nouveaux dieux. Moi, je sais que comme j'étais d'une famille où tout le monde avait peur des forces occultes, mon père, vraiment, le dieu, c'était au-delà du sacré, etc., il fallait même pas en parler. Le fait d'imaginer qu'un auteur pouvait inventer des dieux maléfiques, des dieux qui venaient hanter les hommes, etc. Il y avait quelque chose de libératoire. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Je leur dois vraiment de m'être dit que tout était possible, ces auteurs-là. Ouais, c'est ça.
Merci, Riyad Sattouf.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue. Chargé de programme Daphne Abgral, prise de son Benjamin Perru, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.